Merci d'écouter RFI. Il est 14h ici à Paris, 13h en temps universel, l'heure d'un nouveau journal avec vous, Karine Bellichat. Bonjour Karine.
Bonjour Simon, bonjour à tous. À la une des centaines de milliers de personnes, une marée humaine, drapeau turc à la main, réunie sur la rive asiatique d'Istanbul, à l'appel de l'opposition pour protester contre la politique répressive du pouvoir. On retrouvera Daniel Valot, notre envoyé spécial sur place, dès le début de ce journal. L'aide internationale commence à être acheminée vers la Birmanie. Les secouristes locaux sont désemparés face à l'ampleur de la catastrophe. Après le séisme, plus de 1000 morts, selon un bilan encore très provisoire, alors que le compte à rebours est enclenché pour retrouver des survivants dans les décombres. Et puis l'appel à une journée d'action contre Elon Musk est suivi partout dans le monde. Protestation contre la politique du bras droit de Donald Trump, avec des coupes budgétaires menées à la tronçonneuse, une avalanche de déclarations violentes aussi. Des rassemblements s'organisent contre Tesla, comme à Paris. Témoignage à suivre. La mobilisation est donc massive. À Istanbul, plusieurs centaines de milliers de personnes sont rassemblées sur la rive asiatique de la grande ville turque, présentée comme un test pour l'opposition. Le CHP, le parti d'Ikrem İmamoğlu, avait appelé à poursuivre la marche vers le pouvoir, malgré la répression extrême et des centaines d'arrestations. Daniel Valot, vous êtes en direct sur place. Petit à petit, les manifestants commencent à se disperser. Merci Daniel.
Oui, en effet, les manifestants quittent le parc où s'est déroulé le rassemblement. Dispersion dans le calme à l'issue d'une manifestation qui s'est déroulée, elle aussi, sans incident. Les manifestants qui passent entre les barrières dressées par les forces de police et qui lancent des huées lorsqu'ils arrivent devant l'un des restaurants de la chaîne Espresso Lab, une chaîne que l'opposition avait appelé à boycotter en raison de ses liens avec les autorités. Sur un parking, des tables en plastique sont dressées où des militants du CHP font signer une pétition pour la libération d'Ekrem İmamoğlu, le maire déchu d'Istanbul, injustement incarcéré parce qu'il faisait peur au pouvoir, m'a expliqué une militante du CHP venue manifester avec le drapeau turc sur les épaules. Les partisans d'Ekrem İmamoğlu qui demandent sa libération, bien sûr, mais qui disent également se battre pour la justice, pour la démocratie, ou plutôt pour ce qu'il en reste, ajoute avec beaucoup de gravité un habitant d'Istanbul très inquiet de la tournure actuelle des événements. Je m'inquiète, m'a-t-il dit, pour mes enfants et mes petits-enfants qui risque, selon lui, de vivre et de grandir non pas dans une démocratie, même imparfaite, même menacée, mais bien dans un régime autoritaire.
Daniel Valot, en direct d'Istanbul avec Bertrand Eclair qui vous accompagne pour les moyens techniques. Les secouristes de Mandalay appellent à l'aide. Les dégâts sont considérables dans la deuxième ville de Birmanie après le séisme et les secours travaillent souvent à main nue, tentant de retrouver des survivants dans des conditions de précarité totale. Le bilan du séisme a été revu à la hausse dans le pays. Plus de 1000 morts, 2000 blessés, mais il reste encore très provisoire. Le système de communication est largement endommagé. La collecte des informations sur le terrain bien difficile. On ne compte plus les maisons et les immeubles effondrés, les sites religieux à terre et les routes impraticables. Fait rare devant l'ampleur de la catastrophe, la junte au pouvoir a lancé un appel à l'aide internationale, des secours qui vont devoir se déployer dans un pays déjà très fragilisé par la guerre civile et sous embargo international. Déjà des voix critiquent l'inaction du pouvoir à l'image de cette jeune habitante de Rangoon.
En Thaïlande, le gouvernement a immédiatement pris les choses en main et a pu sauver des vies. Mais ici, c'est l'inverse. Le chef de la junte a dit qu'il allait protéger les sinistrés, mais il ne fait rien. Il a dit que la situation était très grave, mais en réalité, il s'en fiche. Les responsables du pays promettent qu'ils vont régler la situation, qu'ils vont faire tout ce qu'il faut, mais ils ne vont rien faire du tout. En réalité, ils ne se soucient pas des victimes. Tout ce qui compte pour eux, c'est leur propre personne.
protest, they only care about themselves.
Propos recueillis par Marine de la Moissonnière. La Chine a déjà annoncé l'envoi d'une équipe de secouristes et des vivres, comme l'Inde, l'Indonésie et la Malaisie. Les États-Unis et l'Union européenne ont aussi promis d'aider la Birmanie. En Thaïlande voisine, on l'évoquait, des secouristes se sont relayés toute la nuit à la recherche de survivants dans les décombres d'un bâtiment en construction de 30 étages qui s'est effondré à Bangkok. Une quinzaine d'ouvriers serait encore en vie sous les décombres. 8 mois après sa condamnation à 20 ans de prison, Moussa Dadis Camara a été gracié. À la tête de la Guinée entre 2008 et 2009, il avait été condamné en juillet dernier à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité après le massacre de 2009 au grand stade de Conakry. Au moins 156 personnes avaient été tuées, des centaines d'autres blessées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition. Il est gracié pour des raisons de santé, selon un décret lu à la télévision nationale hier soir. Au Liban, un calme précaire règne depuis les bombardements d'hier dans la banlieue sud de Beyrouth. Israël a frappé un des bastions du Hezbollah, un quartier densément peuplé, une première depuis l'instauration de la trêve il y a 4 mois. En représailles à des tirs de roquettes en direction de son territoire, imputé au Hezbollah, le président libanais affirme que le mouvement pro-iranien n'en est pas responsable. Joseph Aoun a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer l'origine de ces tirs. Copenhague ne digère pas la visite de J.D. Vance au Groenland et le fait savoir. Le ministre des Affaires étrangères dit ce matin ne pas apprécier le ton employé par les Américains. Ce n'est pas ainsi que l'on s'adresse à ses plus proches alliés. En visite dans le territoire autonome danois, depuis la base militaire de Pituffik, le vice-président américain a réitéré ses attaques contre le Danemark, accusé de ne pas assez œuvrer pour la sécurité de l'Arctique. Une remise en question de l'autorité de Copenhague, alors que Donald Trump a réitéré son intention de s'emparer du Groenland. Les autorités locales sont aussi vent debout face à l'entrisme américain. Autre dossier prioritaire pour Donald Trump, l'expulsion d'immigrés. La justice avait suspendu les renvois. L'administration américaine demande à la Cour suprême de donner son feu vert pour autoriser de nouvelles expulsions. La menace d'être arrêté puis expulsé fait peur à l'ensemble des migrants installés dans le pays. Beaucoup de Latinos, par exemple, fréquentent moins les commerces de leur communauté. Résultat, les PME tenues par la communauté ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer. Justine Fontaine.
Dès le lancement officiel du plan d'expulsion de masse de migrants, 4 jours seulement après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la fréquentation du food truck de Gabriela Garcia a énormément baissé.
Les deux premières semaines, c'était moins 40%.
Elle emploie 6 personnes et vend des plats vénézuéliens sur une place de Houston, au Texas, un endroit où se trouvent uniquement des food trucks tenus par des latino-américains.
C'est pendant le week-end qu'on vend le plus. Mais le premier week-end après l'annonce du plan, la place était totalement vide.
Les clients latinos n'ont pas osé sortir de chez eux. Certains salariés ne sont pas venus au travail. Des travailleurs latinos ont été arrêtés d'ailleurs dans plusieurs commerces de la ville. Percy Pelaez Conti est le président de la Chambre de commerce d'Amérique centrale à Houston.
Les petites entreprises, une semaine d'arrêt, ça les affecte vraiment.
Aujourd'hui, un peu plus de 3 mois après le retour de Trump, une partie de la clientèle est revenue. Mais en moyenne, les entreprises tenues par des latinos au Texas ont perdu plus d'un quart de leur chiffre d'affaires depuis janvier, estime la Chambre de commerce. 10% ont même fermé, soit le double par rapport à une période normale. Pourtant, les latinos jouent un rôle clé dans l'économie américaine. C'est la communauté qui crée le plus d'entreprises aux États-Unis chaque année.
Le rouleau compresseur de l'administration américaine continue avec à sa tête Elon Musk. À Paris, une poignée de manifestants s'est rassemblée devant un concessionnaire de Tesla, place de la Madeleine. Écoutez Jim, il est citoyen américain.
Nombreux ici sont des citoyens des États-Unis qui votent aux États-Unis, c'est mon cas, d'autres non. Mais je pense qu'on est tous là parce qu'on réalise la gravité de la situation. On a affaire à un milliardaire très corrompu, qui a plein de conflits d'intérêts, qui est en train, sans mandat, sans élection, de démanteler des tas de services de l'État fédéral américain au détriment de la santé et du bien-être de citoyens américains et bien au-delà, et qui par ailleurs est un sympathisant néo-nazi qui soutient et qui a donné de l'argent à des groupes néo-nazis, ou en tout cas d'extrême droite, je pense explicitement à l'AFD en Allemagne. En tant que citoyen américain, on trouve ça inacceptable, affolant et à combattre à tout prix.
Voilà, c'était Jim, citoyen américain devant un concessionnaire Tesla place de la Madeleine. Il était interrogé par Grégoire Motte. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute d'RFI.